Merci Ludovic. Bonjour à tous. Alors contrairement à la présentation que j'avais faite la dernière fois qu'on s'était vu dans le cadre de Temps Nouveau, nous avions un peu parlé des enjeux sociétaux de la musique. Je voulais vous parler de la culture ouverte, donc expliquer ce que c'est et quels sont les défis en fait pour la culture à l'heure du numérique. Enfin, quels sont les défis à mon avis auxquels nous allons être confrontés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette présentation a lieu au moment des Journées du patrimoine. Et je trouve intéressant que le patrimoine physique soit, je dirais, l'objet de toutes les attentions et que le patrimoine numérique, notre domaine public, l'ensemble de nos archives numérisées, n'ait pas encore la même attention. Alors, dans quelques mois, tout au plus, la France devra à son tour transposer la directive droit d'auteur, directive EUCD. Une directive dont les fondements même ont été pensés avant la connaissance des usages que l'homme ferait du numérique. C'est vrai qu'il faut rendre hommage aux initiateurs de cette pensée, qui est devenue un traité, puis une directive, et qui deviendra probablement une loi de la République. Il faut rendre hommage à ces initiateurs parce que c'est vrai qu'au moment des années 60, des années 70, la plupart des écrivains de science-fiction avaient du mal à dépeindre de manière crédible les enjeux géopolitiques de notre monde à l'aube du 21e siècle. Pourtant, certains avaient déjà compris que le contrôle de l'Internet passerait par le contrôle des cultures et qu'une hégémonie des méthodes de contrôle, qu'on appelle aujourd'hui mesures techniques de protection, donc une hégémonie des méthodes de contrôle des contenus culturels renforcerait les acteurs dominants et pourrait conduire à une homogénéisation des contenus et des profits. Cependant, il y a une question qui me taraude et qui taraudera sûrement les historiens de l'Internet, c'est de se demander si cette vision du tout-contrôle anticipait l'émergence d'un Internet anarchique et décentralisé, qu'il s'agissait de combattre à tout prix, ou est-ce qu'elle s'est inspirée des travaux sur la cybernétique et sur le contrôle à distance des machines et peut-être demain des cerveaux. Cybernétique, c'était j'appuie sur le bouton, le missile part de l'avion. On sait qu'aujourd'hui, il y a deux visions de l'informatique, une vision du tout-contrôle et une vision très décentralisée. Et c'est intéressant de se demander si le débat aujourd'hui se résume à un partage des connaissances ou un abrutissement en réseau. Est-ce que c'est la seule alternative à laquelle on est confronté? Pour ma part, il me semble que ce débat est assez simpliste et probablement dépassé. Tout d'abord parce que, depuis quelques mois, l'industrie du disque, on va se limiter à l'industrie du disque, a beaucoup changé. Les majors notamment ont opéré des changements brutaux dans leur stratégie, puisque 3 patrons sur 5 ont été remerciés. Et les bruits courent que l'un des derniers, le plus médiatique d'entre eux, est menacé. Aujourd'hui, les majors sont capables de signer des artistes américains dans tous les pays à fort PNB numérique, ainsi que la quasi-totalité des contenus musicaux ne sont pas locaux, ne sont pas encore exploités sur les plateformes de musique en ligne. Les labels indépendants, que vous verrez cet après-midi, ont capitulé et proposent désormais de suivre, sans moyens et sans aide particulière, une stratégie totalement calquée sur celle des majors. Alors c'est intéressant parce que il semble que ces derniers n'aient pas encore compris que le partage du monde numérique est un peu le même que celui dans la distribution, notamment dans l'alimentation, où finalement iTunes et les majors, c'est la même chose que McDonald's et Coca. On a les mêmes taux dans le monde entier et ensuite on achète de manière locale les pommes de terre et la viande, mais on ne les achète pas au même prix. Et j'ai un peu l'impression que les indépendants vont devenir ces fabricants de pommes de terre et de viande pour les McDonald's de distribution numérique, musicale dans le monde entier. On dit que la prochaine révolution sera silencieuse, qu'on n'y entendra que le bruit des claviers. Je la trouve pourtant trop silencieuse. Presque aucun émoi à l'annonce des premiers procès, notamment des premiers boucs émissaires. Il suffit de regarder le procès de Vannes pour comprendre toute la folie de cette situation. Tous les studios de cinéma américains contre un employé municipal avec un avocat commis d'office qui ne savait pas exactement ce qu'était la copie privée, qui ne savait pas exactement ce qu'était la copie. Et, semble-t-il, 400 à 500 procès seraient en préparation en octobre. On verra ce que ça va donner. Il faut quand même dire que nous vivons une situation totalement inédite. On a une industrie musicale en détresse qui ne souhaite pas l'aide de l'État et qui préfère continuer dans une impasse économique plutôt que de changer et de redevenir compétitive. Quand je parle d'industrie musicale, je ne parle pas des majors, mais des autres. des petits qui sont au bord du dépôt de bilan et qui blâment le mauvais coupable. C'est amusant parce que ceux qui sont pour les outils de la rareté sur Internet sont en train de se faire déréférencer en masse des FNAC et des surfaces spécialisées. Pour ma part, je crois que la directive actuellement, sur la porte du Parlement, ne changera pas grand-chose. Elle ne changera rien à l'attitude des utilisateurs, ni à l'attitude suicidaire de certaines petites PME de la musique qui ne se pressent pas pour s'adapter à un environnement ultra, ultra compétitif où les monopoles changent de nom. Désormais, ils s'appelleront Microsoft, Apple ou Sony. Dès l'année prochaine, certaines majors vont recommencer à faire des bénéfices. Dès cette année, la plupart des indépendants sont des situations catastrophiques. On étudie, semble-t-il, des méthodes pour les maintenir en vie jusqu'à l'année prochaine. C'est aujourd'hui le pire scénario qui se met en place, parce qu'en acceptant les conditions dictées par les industries du disque, on est face à un désastre industriel, et c'est la destruction d'une économie qui se met en place, et qui donne le beau rôle aux majors, puisqu'on sauvera des petits labels indépendants avec le prétexte de l'exception culturelle. Je suis pessimiste et je pense qu'il est déjà trop tard pour beaucoup de structures et de labels prestigieux pour conserver à la fois leur autonomie et leur vitesse de croisière créative. Si j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de culture ouverte, traduction approximative, il en est de l'open culture américaine, c'est parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, ce n'est pas pour lutter contre les 80% de marché de la musique et de la culture, qu'à titre personnel je n'écoute pas souvent, et qui n'a pas besoin de nous pour vivre. Ce qui me motive désormais, c'est de réfléchir aux solutions qui permettront aux 20% de la culture indépendante d'exister et de profiter des opportunités d'une société fondée sur la culture et la connaissance. Pour reconstruire un monde numérique, on a besoin de volontaires, d'éthique, beaucoup, de modèles économiques, de modèles économiques qui ne soient pas fantaisistes, et on a surtout besoin d'outils et de cohérence. Si la FNAC arrive, elle a lancé ce matin son nouveau service de musique en ligne, il doit être possible de faire exactement l'inverse. La culture ouverte, c'est une culture qui a su s'adapter à la réalité du réseau, une culture qui est capable de se mettre en ligne, de se partager, de générer des revenus directs ou indirects, sans dénaturer l'écosystème de l'Internet. Un des exemples, c'est la culture libre, Copyleft, qui est un sous-ensemble, qui est pour moi plutôt un laboratoire des cultures de demain, puisqu'elle est capable de se modifier, de se transformer, de fusionner avec le réseau. Et c'est vrai qu'elle s'inspire d'un succès sur le réseau qui est le logiciel libre. Une autre partie importante de la culture ouverte, c'est le domaine public, patrimoine numérique, qui n'a jamais été autant menacé, surtout par l'indifférence. Enfin, les contrats de mise à disposition de type Creative Commons, qui commencent à être francisés, permettent de concilier échange et diffusion moderne avec les exigences des créateurs de contenu. Cette culture numérique s'adapte à la civilisation du trop-plein culturel et de l'abondance. Elle se développe d'abord dans des niches, puis et doit créer des liens inaltérables entre le créateur et son public. Ensuite, elle sait tirer bénéfice du réseau pour toucher des audiences toujours plus grandes. Cette culture numérique apprend à respecter le principe d'indépendance de la culture sur la technologie, c'est-à-dire pas de mesures techniques de protection, être compatible avec les formats des appareils vendus, surtout les moins chers dans les supermarchés, MP3, DivX, XVID. Je rappelle à certains qui pensent essentiellement au HOG que le brevet sur le MP3 va bientôt expirer, quelques années. Mais attention, une culture ouverte n'est pas forcément une culture gratuite. Elle se sert des échanges et de la promotion pour activer d'autres formes de rémunération, spectacle vivant, vente de supports ou de produits unitaires, concerts et autres, copies privées, rémunération équitable. À cette rémunération principale, il convient désormais de réfléchir à trouver une rémunération des œuvres sur les échanges qui permettrait de mettre en œuvre une seconde source de revenus, une sorte de rémunération rémanente des échanges. Les systèmes alternatifs de rémunération des œuvres doivent être envisagés et analysés